Monsieur Martin Voisin, vous êtes le directeur d'EDF Guyane, bonjour.
Bonjour à tous.
À partir du 1er février, le bouclier tarifaire va limiter la hausse du prix de l'électricité. Est-ce que cette mesure va concerner tout le monde ?
Alors tout le monde en Guyane, effectivement. Le tarif réglementé de vente, c'est un tarif qui est fixé par l'État. Effectivement, le gouvernement a décidé d'une augmentation 1er février de 15%. Et cette augmentation, elle est pour tous les types de clients, que ce soit les clients particuliers, les entreprises, les collectivités locales, les grands consommateurs, les petits consommateurs. Ça sera 15% pour tout le monde. Et je dis 100% en Guyane, parce qu'en Guyane, effectivement, tous les clients bénéficient du tarif réglementé de vente. Ce n'est pas le cas en métropole où, depuis quelques temps déjà, maintenant, les entreprises notamment n'ont pas accès à ce tarif réglementé. C'est vraiment une spécificité des territoires ultramarins.
Alors, les boulangers s'arrachent les cheveux depuis quelques mois. Comment explique-t-on cette hausse de l'électricité ?
Alors voilà, les boulangers, c'est absolument un exemple typique. Il faut savoir que les boulangers ont ils ont des fours, et ces fours consomment beaucoup d'électricité pour produire de la chaleur. Et donc, ils sont typiquement en métropole des entreprises qui ne bénéficient plus du tarif réglementé de vente. Donc en fait, ils achètent l'électricité ce qu'on appelle les offres de marché. Et donc, on va dire, c'est le prix libre de l'électricité qui s'impose à eux. Alors, pas complètement, mais c'est grosso modo l'idée. Et en métropole, les prix de marché se sont envolés, effectivement. Et ils se sont envolés sous un double effet. D'abord, depuis la sortie du Covid, il y a eu une dynamique économique assez importante qui a tendance globalement à renchérir le prix de l'énergie. Et puis, bien sûr, la crise ukrainienne a considérablement augmenté les tensions sur les prix de l'énergie du fait du ralentissement des exportations de Russie, voilà, qui ont créé énormément de tensions sur le prix du gaz et par effet de cascade sur le prix de l'électricité également. Voilà. Et donc, pour vous donner un ordre de grandeur, les boulangers ont subi en métropole un quasi triplement de leur facture d'électricité par rapport à une référence, on va dire, 2020. Et c'est l'effet de ce que je vous décris. Et malheureusement, en métropole, le bouclier tarifaire du tarif réglementé de vente ne bénéficie pas à ces entreprises-là. Voilà, et donc les boulangers guyanais ont cette chance, on va dire, de pouvoir, eux, bénéficier du tarif réglementé de vente et donc de ne pas être concernés, on va dire, par ce triplement de leur facture comme malheureusement leurs homologues de métropole le subissent aujourd'hui.
Est-ce qu'il y a des actions que le consommateur peut faire à son niveau pour limiter cette hausse ?
Alors ça, c'est très très important comme question. En fait, effectivement, la hausse de l'électricité, là, c'est une hausse des prix et elle peut être compensée par une meilleure maîtrise de la consommation. Alors, ça commence par les gestes du quotidien, ça. Par exemple, si on a une clim, refroidir sa pièce à 25 degrés ou à 24 ou à 23, ça a une grosse influence sur la facture d'électricité. Donc, le conseil, c'est plutôt globalement d'accepter d'être sur 25 degrés plutôt que 23, voilà, par exemple. Je vous assure, ça a un effet très très important sur la consommation d'électricité. C'est aussi des gestes, éteindre sa lumière, éviter de laisser les chargeurs de portable constamment sur une prise. Ça consomme de l'électricité même si vous ne chargez pas votre téléphone portable. Donc il y a beaucoup, on va dire, de petits gestes du quotidien qui peuvent finir par faire de grosses économies. EDF a une application qui s'appelle Équilibre et qui, quand les clients regardent leur espace client, peut leur donner des conseils au quotidien de ce type. Voilà. Et puis après, il y a des moyens, on va dire, de faire des économies plus en profondeur, mais qui nécessitent des investissements. Ça, par exemple, ça consiste à choisir des équipements électroménagers plus performants en termes de consommation d'électricité, notamment par exemple sur les climatiseurs. Ça peut être d'investir sur le bâti du logement, que ce soit entreprise ou client particulier, un habitat mieux isolé, eh bien pour le climatiser, ça coûte moins cher parce qu'il y a moins de déperdition d'énergie. Et je tient à mettre en valeur des dispositifs d'aide globalement financés par l'État, mais accompagnés par les entreprises. Donc notamment EDF a une gamme d'offres qui s'appelle Agir Plus, qui permet, on va dire, d'avoir des réductions sur ces investissements-là. On va dire il y a des primes de l'État pour accompagner, par exemple, l'isolation des logements. Voilà. Et donc, ces primes peuvent être assez substantielles et, au fond, financer en grande partie le coût des travaux que les personnes doivent faire chez eux. Voilà. Et je voudrais peut-être aussi insister pour les entreprises sur le fait que faire un diagnostic énergétique qui peut inclure les process de l'entreprise, par exemple le boulanger, son four, comment il peut optimiser la consommation d'électricité de son four. Voilà, il y a des gens qui savent faire ce qu'on appelle un diagnostic énergétique. Et ça peut être quelque chose par lequel il faut commencer pour que ensuite l'entreprise choisisse ses investissements les plus efficaces, c'est-à-dire ceux qui coûtent le moins cher et qui conduisent à des réductions de consommation d'électricité les plus importantes.
Est-ce que vous pouvez nous dire comment c'est calculé le prix de l'électricité en Guyane ?
Faut savoir que le prix de l'électricité, donc, il est lié au tarif réglementé de vente, et que le tarif réglementé de vente, il fonctionne sur le principe de ce qu'on appelle la péréquation tarifaire. Grosso modo, tous les clients payent le même prix, qu'ils habitent à Paris, à Montpellier, en Corrèze, dans des zones très rurales et dans les territoires ultramarins. Et donc ce mécanisme de péréquation tarifaire, c'est vraiment un fonctionnement très protecteur, on va dire, que l'État propose à ses clients et offre une certaine équité, au fond, voilà, à dire, ben, c'est pas parce qu'on vit dans un territoire plus rural, par exemple, qu'il faut que l'électricité soit plus chère. Pourtant, elle coûte plus cher à être amenée, il faut plus de réseaux, plus d'investissement pour que l'électricité arrive jusqu'aux habitants. Et donc, voilà, c'est un peu le mécanisme du timbre, la péréquation tarifaire, que vous envoyez un courrier de Paris à Paris, de Paris à Marseille ou de Paris à Cayenne, bah vous payez le même prix. Et c'est ça la logique, on va dire, et donc c'est un prix moyen qui est payé. Voilà. Ce qui est important de dire, c'est que dans les territoires ultramarins, et c'est le cas bien sûr de la Guyane, c'est un outil extrêmement protecteur des clients. Si je regarde combien aujourd'hui coûte la production d'électricité en Guyane et la distribution, c'est-à-dire les réseaux de transport, les réseaux de basse et moyenne tension, eh bien, si je devais faire payer ce coût-là aux Guyanais, pour faire simple, l'électricité serait environ 3 fois plus chère. Voilà. Donc c'est pour illustrer à quel point le mécanisme de la péréquation tarifaire est extrêmement protectrice et bénéficie au territoire ultramarin. L'explication est très simple, hein. Il n'y a pas de centrale nucléaire en Guyane, mais le nucléaire aujourd'hui c'est imbattable en termes de prix de production, et la densité du territoire fait qu'il faut qu'il y ait beaucoup plus de kilomètres de réseau par habitant que évidemment à Paris par exemple. Voilà. Et donc c'est ça qui explique au fond que le TRV est beaucoup moins cher que ce que serait le prix si le prix de l'électricité en Guyane était fixé librement.
Voilà. Les Guyanais se plaignent souvent des coupures intempestives sur le réseau. Que fait EDF Guyane pour sécuriser justement son réseau et empêcher ces dysfonctionnements ?
Vaste question qui donne beaucoup de travail à mes équipes, à vrai dire. Je voudrais expliquer quelque chose à nos auditeurs, c'est qu'il ne faudrait pas croire que le réseau en métropole n'a jamais de panne. Il y a des tempêtes en métropole, il y a de la neige en métropole, du vent, et ces intempéries provoquent des pannes du réseau. Ce qui est très différent en métropole par rapport à la Guyane, c'est qu'il y a beaucoup plus de résilience de la part du réseau en métropole qu'en Guyane. La résilience, ça veut dire quoi ? C'est que ça veut dire que si il y a un incident sur le réseau à un endroit, l'électricité peut circuler par un autre chemin et arriver malgré tout, finalement, en définitive, à alimenter les maisons des habitants. On dit que le réseau en métropole est très maillé, donc voilà, s'il y a une maille qui saute, ça peut passer par un autre chemin. Voilà. En Guyane, l'extrêmement faible densité de population fait que le réseau est beaucoup moins maillé. On est à ce qu'on appelle un réseau en antenne, c'est-à-dire qu'on tire un fil jusqu'à, et on alimente toutes les maisons sur ce qui longe le chemin du réseau, et puis à un moment donné, le réseau s'arrête et il ne reboucle pas vers voilà. Et donc c'est s'il y a une panne sur cette antenne, on va dire, ben malheureusement toutes les maisons sont coupées sans qu'on ait de moyens de faire autrement que de réparer le réseau pour que les clients aient le courant. Et donc les investissements qu'aujourd'hui nous faisons, c'est précisément d'essayer de rendre le réseau plus résilient en dédoublant certaines lignes. Par exemple, nous allons faire un gros investissement dont la décision d'investissement se prendra cette année, de doubler la ligne qui relie le barrage de Petit-Saut à Saint-Laurent. Ben ça va prendre beaucoup de temps malheureusement parce que c'est un énorme ouvrage, mais dans une dizaine d'années, ça améliorera considérablement la fourniture d'électricité de Saint-Laurent. Voilà. Et cette logique-là de dédoublement des réseaux, nous augmentons aussi les mécanismes de réparation. Par exemple, le fait d'avoir des interrupteurs automatiques, ça me permet d'agir beaucoup plus vite que d'envoyer une personne sur le terrain pour remettre le courant. Tout ça doit rendre le réseau plus résilient. Et donc, oui, il y a des pannes en Guyane. Et notre enjeu aujourd'hui, c'est pas de diminuer le nombre de pannes, même si on cherche aussi un peu à faire ça, mais c'est surtout de faire en sorte que ces pannes aient beaucoup moins d'impact sur la qualité de fourniture. Voilà. Donc, réparer plus vite, en un mot comme en mille.
Monsieur Voisin, qu'en est-il des branchements illégaux dans des quartiers informels, un sujet qui a occupé ces dernières années la une de nos médias? On en entend moins parler aujourd'hui. Est-ce que cela signifie que le problème est réglé?
Non, il n'est pas réglé, et loin de là. En fait, c'est une conséquence du développement démographique de la Guyane, ce qu'on appelle le logement informel. Ce phénomène, il est loin de concerner que le sujet de l'électricité. C'est un problème de politique publique essentiellement. Et donc oui, aujourd'hui, à Cayenne, à Macouria, à Saint-Laurent, à peu près dans toutes les villes du littoral, se développent des habitats informels. Je pense que ce phénomène soumet la politique publique à un vrai débat au fond démocratique sur est-ce qu'on accueille ces quartiers, est-ce qu'on les légalise ou au contraire est-ce qu'on les refuse. Et en fait, la politique d'EDF vis-à-vis de ça, bah, c'est en fait d'accompagner la politique publique. Si les élus aujourd'hui nous disent, nous considérons que nous devons lutter contre ce phénomène pour que les clients qui payent l'électricité normalement ne soient pas victimes de ça, parce que malheureusement c'est ça qui se passe. Alors EDF accompagne cette décision de l'État en faisant des coupures. Si au contraire la politique publique consiste à légaliser ces quartiers, alors nous faisons des infrastructures légales. Ces décisions-là, elles sont prises en partenariat avec les maires, avec l'État. Voilà. Et au fond, c'est très bien. C'est pas à EDF de juger de la situation démographique en Guyane ou des phénomènes de migratoires. Ces phénomènes, ils ont une portée politique évidente. À titre personnel, que la Guyane soit une terre d'accueil, finalement, en définitive, je trouve ça plutôt bien. Voilà. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça sur le plan politique et ensuite sur le plan industriel. Voilà. Et nous, EDF, la partie industrielle suivra la vision politique. C'est normal que ça se fasse comme ça. Voilà. Les élus sont très courageux sur ces sujets. À vrai dire, je suis très admiratif du travail qu'ils font au quotidien.
Nos auditeurs entendent parler du projet de renationalisation d'EDF, qui est donc une volonté du président de la République Emmanuel Macron par rapport à l'ouverture ou la création d'autres centrales nucléaires. Quelles vont être les impacts, les conséquences de la renationalisation d'EDF, à la fois sur les clients, mais également sur le personnel d'EDF?
Personne ne parle de nationalisation. Il faut être précis sur ce sujet-là. EDF est une société anonyme dont le capital est possédé en grande partie par l'État, qui jusqu'à présent tenait environ 80% du capital, et 20% qui était détenu par des investisseurs privés. Et la décision de l'État, c'est de racheter ces actions, mais ce n'est pas de modifier le statut de l'entreprise, qui consisterait par exemple à refaire d'EDF une entreprise publique comme EDF l'était il y a 30 ans. Donc c'est plutôt, on va dire, laisser l'entreprise société anonyme, mais d'avoir un actionnaire unique qui est l'État. Et quand l'État choisit ça, ma compréhension des choses, bien sûr, c'est que l'État veut être un investisseur très puissant vis-à-vis de l'entreprise et qu'il veut pouvoir prendre des décisions en toute responsabilité. Voilà, c'est ma compréhension des choses. Je préférerais bien sûr que ce soit le président d'EDF ou l'État qui exprime ça. Par contre, là où vous avez raison, c'est que cette décision, elle répond à l'enjeu de financer les enjeux industriels de l'entreprise. L'électricité, c'est la solution d'avenir pour remédier au réchauffement climatique et à la décarbonation de l'économie. Voilà, on sait tous qu'aujourd'hui, en brûlant du gaz, du pétrole, on contribue au réchauffement climatique, tout le monde sait ça. Et l'électricité est une réponse à ce sujet, à condition que l'électricité soit produite sans brûler du pétrole ou du gaz. Et donc le nucléaire, évidemment, est une réponse industrielle très puissante à ce problème. Mais les centrales EDF, aujourd'hui, elles ont entre 40 ans, on va dire, de vie. Donc ce sont des ouvrages industriels un peu vieillissants. Voilà. Et donc il y a à réinvestir sur la filière nucléaire pour que le nucléaire permette réellement de répondre aux enjeux de transition écologique. Et on parle de beaucoup d'argent. Voilà. Et donc EDF, seul, avec son propre mécanisme de chiffre d'affaires, d'autofinancement, serait sans doute très dans l'incapacité, on va dire, de financer tous ces investissements qui attendent l'entreprise. Et donc que l'État reparticipe complètement à l'actionnariat de l'entreprise répond sans doute à l'idée générale que c'est la puissance publique qui va en partie supporter l'effort économique dont je parle.
Sur la construction de nouvelles centrales nucléaires, il y a un débat là-dessus, tout le monde n'est pas d'accord, mais bon, on ne va pas s'y éterniser. Maintenant, j'aimerais que l'on parle du développement durable à une époque, ou en tout cas à un moment où le réchauffement climatique se fait de plus en plus visible à travers des catastrophes naturelles. Que fait EDF Guyane pour produire une énergie propre ?
Alors, d'abord, je tiens à dire que le mix énergétique de la Guyane est totalement incroyable. En 2022, 72% de l'électricité de Guyane a été produite de façon verte, avec une contribution évidemment extrêmement forte de l'hydraulique, le barrage de Petit-Saut principalement, mais il n'y a pas que le barrage de Petit-Saut, les années où il pleut beaucoup permettent d'avoir une énergie hydraulique à profusion. Donc ça, ce sont des investissements du passé. Hein. Le barrage de Petit-Saut, il a été construit dans les années 90, mais aujourd'hui, il profite pleinement au mix énergétique de la Guyane. Et ensuite, la plupart du temps de filiales, construit des ouvrages de production verts. Ça sera le cas de la fameuse centrale de Larivot, dont tout le monde espère une décision rapide maintenant. Donc la centrale de Larivot, elle fonctionnera avec de la biomasse liquide, donc concrètement à partir des végétaux. Et puis bien sûr, il y a le développement du photovoltaïque que là aussi, à travers ses filiales, EDF accompagne. Je voudrais préciser bien sûr que sur la notion de production d'électricité, EDF n'est pas le seul acteur. Il y a beaucoup de porteurs de projets aujourd'hui en Guyane qui sont intéressés par investir sur l'électricité verte, et c'est très bien. Et l'enjeu d'EDF dans ce cadre-là est aussi tout simplement que les réseaux supportent, on va dire, l'injection de ces ouvrages nouveaux sur le réseau. Voilà. Donc nous faisons des renforcements de réseau pour permettre à un porteur de projet, par exemple un grand champ photovoltaïque, de pouvoir faire rentrer l'électricité produite par ce champ photovoltaïque sur les réseaux d'EDF. Voilà. Et ça demande des investissements assez sensibles en termes industriels. Voilà.
À vous entendre, monsieur Voisin, EDF n'a pas vocation à développer le monopole de l'électricité ou à garder ou à maintenir en Guyane, c'est un peu ça ?
Oui, absolument. La production d'électricité, notamment, fonctionne en concurrence. Et c'est très bien parce que ça stimule l'innovation. Et on voit bien, Pour produire de l'électricité, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de façons de faire qu'il n'y en avait dans les années 70, où le nucléaire et l'hydraulique représentaient, on va dire, 100% on va dire, de la production d'électricité. Donc, pour verdir la production d'électricité, il faut être innovant. Et l'innovation, elle est souvent stimulée par la concurrence. Donc j'ai vraiment absolument aucun problème de principe à ça. Voilà. La seule nuance que j'introduirais, c'est qu'il faut que l'équation économique de tout ça soit quand même supportable. Autrement dit, que l'innovation se fasse dans une régulation économique supportable par l'État, pour faire simple, puisque ces investissements, quand même, globalement, aujourd'hui, sont financés par la commission de régulation de l'énergie.
Est-ce que ce n'est pas de la pure théorie tout cela? Est-ce que le marché est suffisamment rentable pour attirer des investisseurs en Guyane dans les faits?
Ça, c'est tout l'enjeu de la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie, de répondre à cette question. Cette loi, hein, qui est en cours de révision, elle doit proposer une vision stratégique de ça, c'est-à-dire concrètement, comment on répond aux attentes du territoire dans les nombreuses prochaines années, hein, parce que investir dans l'énergie, ce sont des investissements sur du long terme, hein, ce sont des investissements petits sauts, 40, 50 ans, 60 ans, voilà, donc prendre des décisions d'investissement de ce type, c'est quand même important, et donc ça propose une vision stratégique de dire, ben voilà, en 2028, nous voulons que la Guyane soit complètement verte en termes de production d'électricité. Ça, c'est une première vision stratégique. Et pour cela, quelles sont les filières industrielles que nous promouvons? Une fois cette vision-là établie par l'État, par la CTG, les financements publics seront donnés pour répondre à ça. Mais en insistant sur le caractère soutenable de ce que j'ai décrit, il faut que les porteurs de projets s'inscrivent de façon cohérente avec la programmation pluriannuelle de l'énergie. Voilà, c'est ça la boucle de régulation, ça, c'est le financement.
La centrale du Larivot a vocation à se substituer à celle du port de Dégradécane arrivé en fin de vie. Vous avez une date? Non, puisque ça sous-tend à une décision de justice.
Oui, c'est ça. C'est un projet industriel qui a été engagé il y a pas mal de temps maintenant, qui a fait l'objet de recours. Voilà, et ces recours sont effectivement en cours d'instruction par la justice. Il y a eu une audience le 17 février qui a permis au ministère public de s'exprimer sur ce sujet. Nous attendons la décision du tribunal, voilà, paisiblement. Mais je voudrais insister sur le fait que EDF a toujours été très constant dans sa vision vis-à-vis de cet ouvrage. Sans cet ouvrage, nous ne pourrons pas assumer une qualité de fourniture bien maîtrisée à nos clients. Et ça, c'est essentiel. On a vu, hein, tout au long de l'année 2022, à chaque fois qu'il y a eu des épisodes de rupture de la production d'électricité, il y a eu deux épisodes cet été, il y a eu des épisodes dans les communes intérieures, à Maripasoula ou à Saint-Georges, dès que la production d'électricité est fragile, ça peut créer des situations vraiment très très compliquées vis-à-vis des clients, des habitants de la Guyane. Et donc nous considérons que cet investissement est essentiel pour garantir la sécurité d'approvisionnement en électricité des Guyanais. Voilà. Et nous y tenons avec beaucoup de conviction et en tant qu'ingénieurs. Voilà, nous sommes des ingénieurs, hein. Nous ne sommes pas des économistes, c'est pas le sujet. La Guyane en a besoin et c'est une question de science.
En attendant, est-ce que vous avez des plans B et C que vous pourriez partager avec nous?
Non. EDF a toujours dit que ce projet était essentiel. Et donc, à partir du moment où on dit ça, on ne dit pas c'est essentiel, mais on peut peut-être faire autre chose. Non. Nous avons toujours raconté la même histoire sur ce sujet. Voilà, aujourd'hui, il faut que ce projet se fasse. Et en attendant, la centrale de Dégradécane continuera à fonctionner et on continue à investir pour qu'elle puisse fonctionner en toute sécurité. Mais il faudra un moyen thermique vert, mais il faut un moyen thermique sur l'île de Cayenne. C'est une obligation scientifique, vraiment, j'insiste là-dessus.
Nous sommes sur le campus de Troubiran, comme les internautes peuvent s'en rendre compte, peuvent le voir, ce qui nous amène à parler de la formation et du recrutement également de vos collaborateurs à EDF. Aujourd'hui, est-ce que, en termes de profil, vous arrivez à recruter localement des collaborateurs à tous les échelons à EDF Guyane?
Alors quasiment, oui. EDF est un recruteur important pour le territoire et ça va augmenter ça parce que comme la Guyane est un territoire en développement, il faut que nous soyons capables d'accompagner le développement. Donc aujourd'hui, sur les prochaines années, nous allons continuer à recruter, c'est une certitude. Nous recrutons beaucoup de filières techniques, donc des électriciens, des mécaniciens, voilà, donc de la main-d'œuvre qualifiée et formée. Et bien sûr, ensuite, nous accompagnons ces personnes dans leur montée en compétences au sein de l'entreprise. Mais on recrute aussi des conseillers clientèle, responsables achats. Vous voyez, on a un panel d'emplois des informaticiens assez complet. Et l'extrême majorité de nos recrutements se font en Guyane. Voilà, il y a quelques imports sur des compétences rares qui viennent de métropole, mais ce ne sont pas des recrutements, ce sont des gens d'EDF qui amènent l'expertise qu'ils ont de leur métier en métropole et qui viennent la partager avec les Guyanais. Voilà un sujet qui est évidemment très sensible pour l'emploi en Guyane.
On a entendu les syndicats à un certain moment, certains temps, dénoncer une présence trop marquée, trop forte de la sous-traitance à EDF. Qu'en est-il au niveau justement de la politique des ressources humaines? Est-ce que cet apport de sous-traitants est nécessaire pour faire fonctionner l'entreprise?
Alors il est absolument nécessaire. Il est impossible pour EDF aujourd'hui d'assumer l'ensemble des défis industriels que nous avons seuls. Ça serait inenvisageable. Et puis surtout nos prestataires amènent des savoir-faire que nous n'avons pas. Et ce n'est pas un problème ça. Mais je ne crois pas que les syndicats aujourd'hui en fassent un sujet de revendication. Ce qui serait un sujet de revendication, c'est si le rapport entre ce que font les prestataires et ce que font les agents EDF se faisait par une augmentation, on va dire, du volume de prestations. Mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, EDF investit énormément. On a un budget d'investissement considérable, ce que j'ai expliqué, pour fiabiliser la fourniture d'électricité, accompagner le développement du territoire. Et nous avons besoin à la fois de beaucoup d'agents et beaucoup de prestataires. Et c'est un équilibre qui doit bien marcher. Voilà. Après, il faut que nos prestataires soient au rendez-vous. Et donc, il faut qu'eux-mêmes face à nos commandes. Et donc ça veut dire potentiellement eux-mêmes aussi recruter, développer des compétences. Et ça, c'est un vrai sujet de développement de la filière, notamment sur le domaine de l'électricité. Mais ce n'est pas du coup que par EDF en tant qu'employeur que cette réponse doit se faire.
Vous pouvez comprendre par là que ça pouvait dégrader le service fourni par EDF à ses clients.
Non, mais ça, c'est une vision vraiment trop caricaturale. Les prestataires travaillent très bien, ce sont des experts de leur métier. Le sujet n'est pas de faire les choses à leur place, c'est de les faire. Le sujet, c'est de nous savoir bien acheter ces prestations-là et de créer les conditions économiques pour que ces prestataires vivent raisonnablement. Ça fait pas de débat. J'aurais tendance à dire qu'il y a vraiment la place pour tout le monde, tellement les besoins du territoire sont élevés. Voilà. Donc il y a besoin du développement d'une filière de prestations sur ce sujet, sur notre domaine, et nous aurons les expertises pour accompagner ses prestataires.
Voilà. Hormis la centrale du Larivot, quels sont les projets d'EDF Guyane?
Eh bien, nous investissons beaucoup sur le réseau, tout simplement. Renforçons le réseau, je vous l'ai un peu évoqué tout à l'heure, en investissant pour fiabiliser le réseau, le rendre plus résilient aux pannes, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Et puis en développant le réseau là où les habitants habitent, tout simplement, des territoires qui grandissent. La Guyane aujourd'hui va construire 15 000 logements par an. Il faut qu'il y ait l'électricité dans ces logements, ça, c'est une évidence. Et donc nous, nous investissons pour que l'électricité arrive jusqu'à ces habitations-là et que les compteurs soient posés. Voilà. Tout c'est l'investissement vraiment au quotidien de l'entreprise EDF pour que les clients aient l'électricité et fiable. Voilà. Donc l'électricité, c'est plusieurs métiers, hein. C'est de la production, c'est du réseau, c'est de la clientèle, c'est les gens qui accueillent les clients et qui gèrent les questions sur leurs factures. Voilà, c'est tous ces métiers-là que nous faisons en Guyane. Et nous investissons sur chacun de ces métiers pour que les Guyanais aient une expérience de l'entreprise satisfaisante. Voilà. Tout n'est pas parfait, hein, j'en ai bien conscience, mais nous sommes pleins de bonne volonté pour que le service public de l'électricité soit exemplaire chez nous.
Monsieur Martin Voisin, je rappelle que vous êtes le directeur d'EDF Guyane. Merci d'avoir été notre invité dans Info Campus sur Radio Mayuri Campus.
Je vous en prie, merci beaucoup de votre accueil et avec plaisir pour cet échange.